Frères et sœurs bien-aimés, un peu plus loin dans l'Évangile selon saint Matthieu, à la faveur d'un commentaire de parabole, Jésus semble ajouter une béatitude qui non seulement s'ajoute à la dizaine que nous venons d'entendre proclamer dans le sermon sur la montagne, mais à mon sens les résume toutes. C'est au chapitre 13, lorsque Jésus déclare « Bienheureux les yeux des disciples qui voient ce qu'ils voient, les oreilles qui entendent ce qu'elles entendent ». La sainteté chrétienne, dont on peut dire que les béatitudes forment la charte, consiste à se laisser consoler dans la détresse, à accueillir la paix dans les contradictions, mais pour ce faire, à voir, à saisir l'invisible. Ceux qui contemplent Dieu pour l'éternité aujourd'hui, on peut dire qu'ils ont su voir, dès ici-bas, ce qu'il fallait voir, et comprenons que ce n'est pas anodin. Cette perception, c'est peut-être même le ressort de l'héroïsme des saints. Avant d'être des personnes admirables dont la vie manifeste la puissance de la grâce, les saints sont eux-mêmes des personnes admiratives, voyantes, visionnaires. Alors, qu'ont vu les saints ? La beauté du dessein divin. Alors que tout conspirait à le voiler. Et il me semble qu'il est d'autant plus nécessaire de retrouver le sens de cette beauté entreaperçue par tant de chrétiens fidèles, que la célébration de la Toussaint semble tristement recouverte par son exact opposé en ce moment, le culte de la laideur, comme si nous n'avions pas assez de drames abominables. Halloween, fête aussi païenne et commerciale, vient ajouter ses masques morbides, d'ailleurs contraires au bon goût français dont l'effacement semble se confondre avec la déchristianisation du pays. Mais passons, et surtout, attachons-nous à regarder ce qu'il importe de voir, qui semble avoir fasciné et qui fascinera toujours les disciples de Jésus-Christ. Alors bien sûr, il faut nommer en premier lieu la beauté même du visage du Christ, perçu dans la foi. Assurément, elle est la cause première de l'amour éprouvé par les chrétiens. Et à ce titre, d'ailleurs, les béatitudes constituent, notons-le en passant, un véritable autoportrait. Certes, mais en même temps, aimer Jésus, c'est immanquablement aimer ce qu'il aime lui. L'époux, il aime l'épouse. L'épouse qui est son divin projet, son œuvre, une nouvelle création qu'on appelle encore l'Église de Dieu et que saint Paul nommera également le dessein miséricordieux du Père. L'Église. Je sais bien qu'en désignant l'Église, je risque d'évoquer ce à quoi la réduisent les journalistes en général qui ne perçoivent, à moins qu'ils ne chaussent les lunettes de la foi, ce qui ne leur est pas interdit, qui ne perçoivent que son écorce institutionnelle, temporelle, mais je vous parle ici du mystère par excellence, ce monde réconcilié, comme le définit saint Augustin, ce corps vivant du Christ, vivant au ciel et sur la terre, ce corps en cours d'achèvement, sous les yeux du Père, dans la puissance de l'Esprit, sous les yeux bienheureux des enfants de Dieu qui veulent bien justement contempler cette merveille. Et on peut dire de ce chef-d'œuvre qu'il est encore plus beau que le premier, que la première création. Alors pour saisir ce qui s'ébauche, ce dont il s'agit, ce qu'il faut contempler, je vous propose de réfléchir à partir de trois éléments du récit symbolique du livre de l'Apocalypse, à partir de l'extrait qu'on a entendu en première lecture. Disons que le Seigneur est une communauté qui se forme en trois temps successifs. D'abord, il y a le temps de la foi. C'est ce que symbolise la marque de Dieu, ce sceau apposé par l'ange du Seigneur sur le front des élus. La réception du Saint-Baptême est une élection qui donne à ses bénéficiaires la capacité de croire, d'adhérer à la vérité qui est Jésus-Christ, non seulement le Messie sauveur promis, mais le Fils de Dieu incarné, mort et ressuscité, qui veut nous introduire dans la vie éternelle. Mais pour être sauvé, précisera Jésus, c'est la finale de l'Évangile selon Saint-Marc, le baptême ne suffit pas, il faut encore la foi. C'est le baptême qui nous procure cette foi, mais il faut l'activer. Le sceau est prometteur, mais pas suffisant. On peut compter précisément le nombre de personnes marquées, le nombre de personnes inscrites sur les registres paroissiaux. 144 000 est un nombre symbolique qui symbolise la possibilité d'une numération avant la destruction finale de l'univers, mais le nombre de personnes effectivement sauvées à la fin des temps, nul n'en connaît le nombre, dit ensuite le livre. L'Église, donc, c'est d'abord cette communauté qui surgit dans le temps par la foi. Ce temps initial, eh bien, il va introduire immédiatement dans celui de l'espérance, qui va consister ensuite, dans un deuxième temps si vous voulez, à accueillir effectivement la grâce offerte par Jésus. À quoi servirait de confesser que Jésus est le Sauveur si ce n'était pour se laisser effectivement sauver par lui? Ça, c'est plutôt le symbole de la robe qui doit être activement lavée dans le sang de l'agneau par ceux qui en ont été dotés, pourvus. Sur terre, ce grand lavage est assuré par le sacrement de pénitence qui vient sans cesse, au cours de l'existence, actualiser la grâce du baptême, alors qu'au ciel, cette purification, elle a un nom, ça s'appelle le purgatoire. À ceux qui ne seraient pas totalement dévêtus de la grâce, qui ne seraient pas mortellement disgraciés, mais qui n'auraient pas confessé leurs péchés et reçu l'absolution pendant qu'ils étaient en chemin, sera offerte, nous l'espérons, la possibilité d'être purifiés, et cette espérance s'appelle le purgatoire. Afin de se présenter avec une tunique justement présentable, comme d'ailleurs une parabole de Jésus l'indique explicitement. Et précisons que ce n'est que temporairement que l'Église est une communauté de foi et d'espérance, parce qu'il s'agit plus définitivement d'accéder à son cœur qui est le temps de l'amour. Au moment où je vous parle, les saints qui sont auprès de Dieu, à ce jour, n'ont plus la foi ni l'espérance, puisqu'ils ont la vision bienheureuse du Seigneur. L'Église introduit dans ce temps de l'amour, qui est une éternité d'amour, se déversant dans notre temps. Le symbole de cette adoration aimante serait peut-être celui des palmes tenues à la main par les élus qui entourent le trône de l'agneau, la palme. Végétale immarchessible, signe de l'adoration perpétuelle, de la célébration éperdue, de l'amour absolu. Si vous voulez, la configuration de cet ensemble à partir de ces trois éléments fait penser aussi à une demeure. Nous y pénétrons par l'entrée principale, qui est le baptême dans la foi, moyennant le sceau, qui fonctionne comme un passe, comme une clé. Nous sommes ensuite priés de passer par la salle de bain, soit par la pénitence, régulièrement reçue si nous sommes sur terre, soit le purgatoire si nous sommes au ciel. Mais la finalité, l'ultime invitation, consiste à rejoindre la salle des noces, à entrer dans le temps de la charité par le sacrement de l'Eucharistie, qui nous attable donc avec tous les saints du royaume pour célébrer l'amour de Dieu qui fait le pont entre le ciel et la terre. Voilà ce qu'entrevoient les bienheureux. La fin de tout, le fin mot de l'histoire, le plan de Dieu, le chef-d'œuvre du Sauveur qui désire au plus haut point réussir cette grande fête ultime, plus belle, je le redis, que la première création. Et quand on comprend ce qui se joue en vérité, alors qu'on est encore ici-bas, ce que l'on a à gagner à se laisser conduire par le Seigneur jusque-là, on saisit qu'il faut consentir à perdre éventuellement. On comprend que le détachement des saints n'est qu'un plus grand attachement, que leur abnégation n'est que le choix d'une joie plus définitive. Frères et sœurs bien-aimés, oui, comprenons pour finir que ce monde et ce temps n'ont pas raison d'être contemplés à distance. Nous en sommes rendus contemporains. Dès l'instant où nous décidons de vivre humblement dans la foi, l'espérance et l'amour, accueillant la parole et la grâce de Jésus dans le pardon et l'Eucharistie, comprenant qu'on ne peut pas vivre l'amour sans vivre d'amour. Jésus-Christ a donné sa vie pour que rien ne puisse désormais compromettre l'accès à cette vie éternelle. La sainteté est un don de Dieu, non moins qu'un choix de l'homme. Bienheureux nos yeux quand ils veulent bien voir la splendeur de la réception que Dieu prépare. Bienheureux les yeux de ceux qui discernent la véritable actualité, qui est celle de la grâce. C'est elle qui nous donne la liberté de faire aujourd'hui allégeance au cœur de Jésus et de Marie, la liberté de battre dès ici-bas au rythme du ciel et de tous les saints. Amen.